Journal d'un écrivain, 1881. Janvier. Chapitre 1. Les finances. Est-il vrai, mon Dieu, qu'après 3 ans de silence, je vais recommencer mon carnet avec un article économique? Suis-je donc un financier si expert? Jamais je ne me suis piqué de lettres. Cette maladie de l'économie politique m'avait toujours laissé indemne, et voici que je suis atteint comme les autres. Maintenant, tout le monde est économiste, c'est dans l'air. Et comment ne pas être économiste à l'heure qu'il est? Voici que le rouble baisse, c'est le déficit. La maladie économique a pris chez nous une inquiétante recrudescence depuis la guerre de Turquie. Presque tous les Russes en ont souffert, plus ou moins. Le rouble baissait, la guerre nous avait criblés de dettes. Et puis, il faut bien le dire, il y a eu là une petite vengeance de ceux qui étaient opposés à l'expédition. Ah, nous vous l'avions bien dit, nous vous l'avions prédit. Se sont surtout jetés dans l'économie politique ceux qui, en 76 et en 77, proclamaient que l'argent valait mieux que l'héroïsme, que la question d'Orient était une sottise et un mythe, que non seulement la guerre n'était ni nationale ni populaire, mais encore que le peuple n'existait qu'à l'état de masse inerte, muette, sourde et imbécile, faite pour payer des impôts et travailler pour les gens intelligents. Si ces gens-là avaient donné des sous dans les églises, c'était sur l'ordre des prêtres et des moines. Nos tercites russes, et le nombre en est grand dans la classe éclairée, furent alors froissés dans leurs plus intimes sentiments, et ils se soulagèrent en s'en prenant à nos finances. Peu à peu, se rallièrent à eux de nouveaux adhérents, parmi lesquels on ne fut pas médiocrement surpris de voir d'anciens héros. Ce fut le résultat de la paix très désavantageuse et du congrès de Berlin. Nota bene, à la suite de ce congrès de Berlin, une bonne femme de la campagne, propriétaire d'une auberge, me demanda un jour « Dites-moi donc comment tout cela a fini là-bas à l'étranger ? Tu dois être au courant. » Je demeurai assez surpris, mais nous reparlerons plus tard de cela. Je veux dire les progrès qu'a fait l'intelligence populaire. Pour l'instant, j'en reviens au rouble et au déficit. Il y a là-dessous quelque chose de l'esprit de troupeau. Tout le monde écrit à ce sujet, tout le monde s'inquiète, et le grand thème est toujours celui-ci. Pourquoi donc n'est point chez nous comme en Europe ? En Europe, dit-on, le thaler est toujours non. Pourquoi ici le rouble devient-il mauvais? Ah, que ne sommes-nous pas européens? Quelques hommes d'esprit ont enfin résolu cette question. Si nous ne sommes pas comme les Européens, c'est que chez nous, l'édifice est inachevé, n'est pas encore couronné. Et tout le monde crie à cause du non-couronnement de l'édifice, oubliant qu'il n'y a en réalité aucune espèce d'édifice, à moins qu'une petite collection de messieurs à gilets blancs ne se prenne pour un édifice. Il serait peut-être bon d'établir des fondations avant de songer à couronner quoi que ce soit. On nous dit aussi « Si nous adoptions quelques formules européennes, tout serait sauvé !» Cela doit se trouver dans un coffre quelconque, les formules, il n'y a qu'à prendre. Et du coup, la Russie sera l'Europe, et le rouble vaudra le thaler. Ce qu'il y a de charmant dans ce genre de remède, c'est qu'il n'y a aucun besoin de penser ou de se donner de la peine pour les trouver. Parbleu, pourquoi se fatiguer? Empruntons les idées et les systèmes des étrangers, et tout ira à merveille. Mais, messieurs, des gilets blancs ne constituent pas un édifice. C'est tout au plus si la réunion d'un certain nombre de ces gilets peut composer ce qu'on appelle un salon. Si encore, vos gilets blancs pouvaient donner un avis raisonnable sur une question générale. Mais, pourvu de gilets blancs ou non, nous nous sommes tenus à l'écart de notre peuple pendant des siècles, et nous allons tout à coup fusionner avec lui. Il ne s'agit pas d'un jeu de scène de vaudeville. Non, il est question de culture intellectuelle. Et nous n'avons pas eu de culture qui nous soit propre jusqu'à présent. Songez-y. Prenez le russe européanisé. même le plus inoffensif et le plus aimable de son naturel. Et voyez avec quelle rage nigaude et haineuse il se démène, parfois l'écume à la bouche, pour soutenir ses idées bien-aimées, surtout celles qui sont le plus nettement en contradiction avec l'idéal russe. « Nous seuls, clame-t-il, pouvons donner un conseil utile et que les autres, tout le pays, soient bien heureux que nous daignions faire nos efforts pour les élever jusqu'à nous, pour leur apprendre leurs droits et leurs devoirs. » Oui, ce sont les gens de son espèce qui veulent apprendre au peuple ses droits et même ses devoirs. Les farceurs. La tutelle qu'ils prétendent nous imposer ressemble fort à l'ancien servage. Et le peuple, nous l'enchaînerons de nouveau. Oui, ils organisent des parlottes, mais dès le premier jour, ils ne s'entendent plus. Ne vous offensez pas, messieurs. Mais ce n'est pas d'une société comme la vôtre, qui depuis 2 siècles a rompu avec le peuple, avec toute tâche utile et qui n'a pas de culture originale, que peut sortir un conseil efficace. Les donneurs d'avis se multiplient d'une façon extraordinaire chez nous. Le premier monsieur venu s'installera devant vous et se mettra à pérorer. Cela n'aura ni queue ni tête, et cela pourra durer 1 heure et demie. Oh, il parlera aussi facilement que l'oiseau chante. On se demandera, est-ce un homme d'esprit ou le contraire? Et personne ne saura quoi décider. Chaque parole semblera claire et compréhensible, mais l'ensemble du discours n'offrira aucun sens. Sont-ce les œufs désormais qui feront la leçon à la poule? Ce sera l'absolue confusion. Le type de ce monsieur est encore nouveau pour notre littérature. Il y a comme cela un certain nombre de gens et de choses d'actualité que notre littérature n'a pas encore abordées. Nous en sommes toujours au type des années 40, ou, par exception, des années 50. Peut-être nous sommes-nous justement jetés dans le roman historique pour cause d'incompréhension de l'actualité. Chapitre 2. Peut-on exiger chez nous des finances à l'européenne? Eh bien, qu'est-ce que font les finances? Où est l'article financier? Me demandera-t-on. C'est que je n'ose guère écrire quoi que ce soit sur les finances. Pourquoi ai-je alors commencé à rédiger des considérations financières? Sans doute parce que je prévoyais qu'en débutant ainsi, je passerais forcément à un tout autre ordre d'idées. D'ailleurs, je sais que je ne vois pas du tout nos finances d'un point de vue européen. Peut-être parce que je considère que notre pays ne ressemble pas le moins du monde à l'Europe, que tout est si spécial chez nous que pour les Européens, nous pouvons ressembler à des habitants de la Lune. En Europe, la féodalité a croulé depuis 2 siècles et une révolution a grondé. Chez nous, le servage a été aboli d'un seul coup, et cela grâce à Dieu. Sans aucune révolution. Mais tout ce qui tombe d'un seul coup produit toujours un grand ébranlement. Il est certain que ce n'est pas moi qui me plaindrais de la disparition du servage. Je trouve au contraire excellent qu'une infamie historique se soit évanouie à la seule voix du libérateur. Mais on ne va pas contre les lois naturelles, et l'ébranlement fut énorme. Disparut le servage qui entravait tout. Même le développement de l'agriculture. Il me semble que le paysan aurait dû s'enrichir. Rien de pareil n'est arrivé. L'agriculture a encore rétrogradé dans le pays, et le moujik ne tire plus de la terre que le minimum de ce qu'elle peut donner. Y a-t-il espoir d'amélioration? Question futile, me diront les sages, et déjà résolue. Je la crois, moi, loin d'être résolue. Et la considère comme beaucoup plus importante qu'on ne se le figure. Voyez encore. La propriété terrienne est tombée à rien, et nous assistons à la métamorphose de l'ancienne classe des propriétaires, en classe populaire intelligente. En quoi pouvait-elle se transformer, du reste? Cela serait une chose excellente, car le peuple a besoin du contact de gens intelligents, si, par malheur, le changement n'était pas plutôt transitoire que durable. L'ancienne classe de propriétaires, A-t-elle renoncé à tout espoir de conserver ses distances avec le peuple? Si elle n'a plus la richesse et la force, n'aspire-t-elle pas à jouer le rôle d'une sorte d'aristocratie d'intelligence qui tiendra le peuple en tutelle morale? Voudra-t-elle vivre fraternellement avec le paysan, vénérer ce que ce dernier vénère, aimer ce qu'il aime? Sans cela, personne ne pourra jamais entrer vraiment en contact avec notre peuple. Voilà une question qui n'est aucunement résolue. Du reste, tout est en question chez nous. Et puis, tout ce qui se résout ailleurs peu à peu, avec le temps et les générations successives, doit être résolu tout de suite chez nous. C'est encore une des choses qui nous différencie le plus d'avec l'Europe que cette soudaineté dans les évolutions. Quelquefois, le changement se produit même d'une façon des plus inattendues, à la suite d'un ordre, par exemple. L'Europe n'a pas connu ses à-coups. Comment peut-on exiger que nous soyons pareils aux Européens? Et comment voulez-vous que nos finances ressemblent aux leurs? Pour moi, par exemple, c'est un axiome que ce ne sont pas les constructeurs de chemin de fer, ni les commerçants, ni les banquiers millionnaires, ni les juifs qui doivent tenir le sol, mais les cultivateurs. Celui qui cultive la terre mène tout. Le cultivateur, c'est l'État, la force centrale, le cœur du pays. Pourtant, cet axiome ne semble-t-il pas contredit à l'heure actuelle? Ne sont-ce pas les constructeurs de chemin de fer et les juifs qui ont la main sur toutes les forces économiques? En ce moment, le pays se couvre de voies ferrées, et cela encore se passe comme nulle part ailleurs. L'Europe a mis un demi-siècle à construire des réseaux de chemin de fer, et elle est riche. En Russie, les derniers 15 ou 16 000 verstes de chemin de fer se sont construites en 10 ans, et notre État est pauvre. Et cela s'est fait au lendemain de l'émancipation des serfs. C'est là que sont allés ces capitaux, dont la terre avait tant besoin. C'est sur les ruines de l'agriculture qu'on a installé des chemins de fer. Et la question de la propriété privée est-elle résolue chez nous? Sans une saine solution de cette question, il n'y aura point de stabilité dans le pays. Et sans stabilité, comment peut-on exiger en Russie des finances, des budgets à l'européenne? L'agriculture, pendant 1,5 siècle, n'a pas eu de développement régulier. Et comment arrivons-nous à quelque chose si ce n'est pas par cette même agriculture? S'il existe des niais qui pensent sauver l'édifice en empruntant je ne sais quelles inventions européennes, nous renions ces imbéciles, et nous croirons que pis ce sera, et mieux ça vaudra. Voilà notre philosophie. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens qui voient les choses ainsi. Malheureusement, ils veulent dire « que ce soit pis pour les autres, mais meilleur pour moi ». Ces gens-là ont des appétits de loup. Ils sont méchants et voluptueux et ne veulent rien supporter. Adieu les dîners, adieu les cocottes, et de désespoir nos gens se brûlent la cervelle. Et c'est heureux encore quand ils se brûlent la cervelle et ne vont pas très légalement voler leurs voisins. Les affaires stagnent, l'indigence générale s'accroît. Les commerçants de tous côtés se plaignent qu'on n'achète plus rien. Les fabriques produisent le moins possible. Entrez dans un magasin et demandez comment vont les affaires. On vous répondra « Autrefois, pour les fêtes, chacun s'achetait au moins une demi-douzaine de chemises. Maintenant, on en vend une à la fois. » Demandez la même chose dans les restaurants à la mode, qui sont les derniers endroits où se manifeste la pauvreté d'un pays. « Ah, vous dira-t-on, on ne fait plus la noce comme jadis. Tout le monde s'est rangé. C'est beau quand on vient vous demander un dîner pour une personne. » Les élégants naguère, ceux qui faisaient la fête, ont fini de manger l'argent des propriétés vendues. Ils abattent les dernières forêts, et quand il n'y aura plus d'arbres, ils n'auront plus le sou. Et où sont-elles maintenant nos forêts? Quand vous parcourez le pays en chemin de fer, cherchez les bois. Ce ne sont plus des arbres que l'on abat, ce sont des buissons et des arbrisseaux. Cette préoccupation paraîtra fort puérile si l'on songe aux graves questions qui requièrent l'attention du pays. Les financiers se moquent bien des forêts. Pourtant, sans forêt, les finances baisseront encore. Mais tout le monde semble s'être donné le mot pour glisser là-dessus. La catastrophe viendra cependant, bien que tant de gens se tranquillisent en constatant que le bois est à haut prix sur le marché. Personne ne veut voir que la hausse provient de l'offre croissante de ceux qui abattent leurs forêts et même les baliveaux, parce qu'ils ont tout mangé. Enfin, les appétits croissent à mesure que les forces diminuent. Le nombre des « capitaines Kopeikine » va croître singulièrement. Si tous nos mondains ne deviennent pas des brigands de grand chemin comme ce Kopeikine, je crains que nous ne voyions augmenter terriblement l'armée des pickpockets. N'existe-t-il pas une certaine quantité de Kopeikine libéraux? Ils ont si bien compris que le libéralisme est à la mode et que l'on peut réussir dans ses rangs. Tels libéraux ont les dents longues et deviennent dangereux. Ce sont ceux-là qui s'attellent le plus volontiers aux réformes imitées de l'étranger. Et ceux qui croient les mener ne sont certainement pas responsables de la conduite de semblables limoniers. « Tous les changements, je les admets, » dit Kopeikine libéral, « à condition qu'ils ne me coûtent pas d'efforts. J'aime les changements. Cela cause de petits désordres qui nous permettent de nous enrichir. » Mais laissons là les Kopeikines, passons aux finances. Aux finances. Chapitre 3. Guérissons les racines. Selon mon habitude, je commence par la fin, mais j'arriverai ainsi à vous dire plutôt toute ma pensée. Jamais je n'ai pu manœuvrer tout doucement, approcher à petits pas et ne présenter mon idée qu'après des préparations savantes. J'ai peut-être tort, car certaines conclusions trop vite données, sans preuves préventives, peuvent parfois étonner, embarrasser et même paraître comiques. J'ai donc peur que le lecteur ne soit choqué ou ne se mette à rire quand je vais lui asséner l'axiome que voici. Pour obtenir de bonnes finances dans un pays qui a passé par quelques secousses, il ne faut pas trop songer au mal présent et évident, mais bien aller aux racines du mal, même si le procédé est beaucoup plus long. J'entends d'ici les railleries. Pas fort, votre axiome. Personne n'ignore qu'un arbre dont les racines sont pourries ne donnera jamais de fruits. Permettez-moi de vous dire toute mon idée. Je sais bien que même si j'écris un volume entier pour l'expliquer, elle ne sera jamais complètement claire. Pourtant, je veux essayer de me faire comprendre. Il est certain que tout le monde sait qu'avant tout, il faut guérir les racines. Tous les ministres des Finances y ont pensé, le ministre actuel comme les autres. Il a déjà attaqué le mal aux racines de l'arbre en abolissant l'impôt sur le sel. On attend encore beaucoup d'importantes réformes du même genre. On a déjà employé quantité de remèdes pour la guérison des racines. On a nommé des commissions chargées d'étudier la situation de paysans russes. Les commissions ont nommé des sous-commissions qui ont dressé d'abondantes statistiques et tout cela a marché on ne peut mieux. Entendons-nous, on ne peut mieux au point de vue administratif. Mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. On ne s'est servi que de palliatifs. Les choses n'iront convenablement que le jour où nous voudrons bien oublier pour quelque temps les besoins momentanés de notre budget, nos dettes criardes, le déficit, la baisse du rouble, et même cette impossible banqueroute que nous prédisent nos amis de l'étranger. Voilà ce que j'appelle attaquer le mal aux racines. Oublions tout l'actuel, allons plus au fond des choses, toujours plus au fond. Ce qui est actuel se guérira pendant ce temps-là. Bon, je comprends que ce que je dis paraisse absurde, et j'ai justement commencé par une absurdité pour être plus facilement compris. J'ai exagéré. Mettons qu'il ne faille oublier qu'à moitié les difficultés présentes. Toutefois, je répéterai que notre attention doit surtout se concentrer sur le fond de la question. Nous n'avons jamais regardé qu'à la surface. Je serai encore plus coulant. N'oublions que le 20e de nos préoccupations actuelles. Mais chaque année, oublions-en encore un 20e, jusqu'à ce que nous en soyons arrivés, disons, aux trois quarts de l'oubli total. La proportion ne signifie rien. Le principe seul importe. Je sais bien qu'il restera cette question. Qu'allons-nous faire avec les difficultés actuelles? Il est impossible de ne pas en tenir compte. Mais je ne dis pas « n'en tenons aucun compte ». On ne peut pas faire que ce qui existe n'existe plus. Et pourtant, il y aurait peut-être des moyens. Comme je vous le disais plus haut, si chaque année nous privions d'un vingtième de notre attention les difficultés présentes, pour reporter ce vingtième d'attention sur des maux plus cachés, mais plus graves, ma proposition ne semblerait pas si fantaisiste. Voyons, comment pourrais-je me faire un peu entendre? Supposez, par exemple, que Pétersbourg consente, à la suite d'un miracle, à atténuer son dédain pour le reste de la Russie. Nous aurions peut-être déjà quelque chose pour guérir les racines. Pétersbourg est arrivé à se croire toute la Russie, suivant en cela l'exemple de Paris qui se croit toute la France. Mais Pétersbourg ne ressemble pas du tout à Paris. Paris s'est arrangé depuis des siècles pour absorber tout le reste de la France au point de vue social et politique. Retirer Paris à la France, que restera-t-il? Une expression géographique, rien de plus. Mais Pétersbourg n'est pas toute la Russie. Pour une énorme majorité du peuple russe, Pétersbourg n'existe qu'en tant que résidence du tsar. Or, notre intelligence pétersbourgeoise, nous le savons, s'éloigne de plus en plus, de génération en génération, de la compréhension de la Russie. Justement, parce que, s'étant confinée dans son marais finnois, elle change de plus en plus d'opinion sur le pays. Mais jetez un coup d'œil hors de Pétersbourg, et vous verrez l'océan des terres russes s'étendre à l'infini, énorme et insondable. Et les fils de Pétersbourg renient l'océan du peuple russe, le considèrent comme une chose stagnante et inconsciente. « La Russie est grande, mais bête, » dit le proverbe. « Elle n'est bonne qu'à nous entretenir. En revanche, nous lui apprenons l'ordre et la raison d'État. » C'est en dansant dans les salons, dont ils polissent ainsi les parquets, que se forment les futurs fils de la patrie. Et ces « rats savants », comme les a surnommés Ivan Alexandrovitch Khlestakov, étudient leur pays dans les chancelleries, où certainement ils apprennent quelque chose, mais non pas à connaître la Russie. Ils y apprennent même parfois des choses très singulières qu'ils veulent imposer à la Russie. Pendant ce temps, l'océan russe vit de sa vie spéciale, qui ressemble de moins en moins à celle de Pétersbourg. Ne dites pas que cette vie est inconsciente, comme le croient non seulement les pétersbourgeois, mais aussi quelques Russes, pourtant mieux informés. Si l'on savait combien cette appréciation est injuste, et combien le peuple fait de progrès conscients rien que pendant le règne actuel. Oui, la conscience publique croît et se tortille, et le peuple s'explique déjà bien plus de choses qu'on ne le croit à Pétersbourg. Mais ceux-là seuls le voient qui savent regarder. Pour éviter de grands malentendus futurs, comme il serait désirable, je le répète, que Pétersbourg atténuât un peu son dédain pour le reste de la Russie. Combien cela aiderait à la guérison des racines? Mais, va-t-on m'objecter, tout cela, c'est du vieux radotage slavophile. Et puis qu'est-ce que vous nous racontez avec votre guérison des racines? Vous ne l'avez pas encore expliqué. Vous avez raison. Commençons par les racines. Chapitre 4. Le peuple. Ce qu'il faut guérir tout d'abord, c'est le peuple russe lui-même, successivement comparé à un océan et à des racines. Je parle du petit peuple des ouvriers et des paysans. La force payante, les mains calleuses, l'océan. Comment pourrais-je ignorer tout ce que fait pour lui le gouvernement actuel, qui a débuté par l'émancipation des serfs? Oui, le gouvernement se soucie de ses besoins, de son instruction, il le soigne. Il lui fait même grâce à l'occasion des impôts non payés. Qui ne le sait? Mais ce n'est pas de cela que je veux parler tout d'abord. Je ne songe qu'à la guérison morale de cette immense racine sur quoi tout s'appuie. Oui, le peuple est malade moralement. Non de façon mortelle, mais la maladie est grave. Il est difficile de lui donner un nom. Pourrait-on l'appeler la soif de vérité non satisfaite? Le peuple cherche sans relâche la vérité et le chemin qui y conduit, mais il ne trouve pas toujours. Je voudrais me borner à parler ici du côté financier de la maladie. Depuis la libération des serfs, un grand besoin de vérité apparut chez le peuple, mais un besoin de pleine, d'entière vérité, de résurrection civique. On réclama une parole nouvelle. De nouveaux sentiments se manifestèrent. Le peuple avait espéré de ces grands changements un état de choses qui ne vint pas. L'ivrognerie fit de grands ravages dans ses rangs, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais le peuple n'a pas perdu son désir de vérité nouvelle, de vérité complète, tout en continuant à se saouler d'eau-de-vie. Jamais il n'a été plus exposé à certaines influences. C'est toujours la suite de la recherche de la vérité et de l'inquiétude que cette recherche fait naître. Le peuple est plus que jamais inquiet moralement. Je suis sûr que si la propagande nihiliste n'a produit plus d'effet sur lui, c'est bien grâce à la sottise et à la maladresse de ses zélateurs. Avec le moindre savoir-faire, ils se seraient glissés où ils auraient voulu. Oh, certes, il faut soigner le peuple. Et l'inquiétude n'est pas seulement chez le peuple, elle est en haut aussi. Mais chez nos paysans, les promesses des nihilistes ont quand même ébranlé certains esprits. Dernièrement, on lut dans les églises un mandement dans lequel il était dit que ces promesses ne se réaliseraient pas. Ce fut justement alors que les paysans commencèrent à y croire. J'en sais une preuve. Des moujiks voulaient acheter de la terre d'un propriétaire voisin. On s'était mis d'accord sur le prix, mais après cette lecture, les moujiks ne voulurent plus acheter. « Puisque nous pourrons, dirent-ils, avoir la terre sans donner d'argent. » Ils rient sous cape et attendent l'occasion. Ce ne sont là que des symptômes légers, mais qui indiquent une disposition à croire aux premières promesses venues. Cela témoigne de l'état d'inquiétude du peuple. Et voici la plus grave. Le peuple, chez nous, est uni, et on le laisse à ses propres inspirations. Il n'a pas de directeurs moraux. Il y a bien les Amtsvos, mais ils sont composés de gens d'une classe supérieure. Il y a aussi la justice, mais elle est rendue par des supérieurs. On raconte à ce sujet mille anecdotes que je ne rapporterai pas. Aujourd'hui, un paysan regarde autour de lui et constate que seuls les exploiteurs et les usuriers peuvent vivre, qu'on ne travaille que pour eux. « Eh bien, se dit-il, moi aussi je deviendrai usurier. » Un autre se contentera de devenir un ivrogne, non parce que la pauvreté lui pèse, mais parce que l'injustice le dégoûte. Que faire contre cela? C'est le sort, le fatum. On a compté que le peuple a maintenant environ 20 supérieurs de plus qu'autrefois, des gens qui s'occupent de ses affaires et les tiennent en tutelle. Il avait déjà assez de supérieurs, voici qu'on lui en impose 20 de plus. Il ne lui reste guère plus de liberté qu'à une mouche tombée dans une assiette pleine de mélasse. Mais le pis de tout, c'est qu'avec toutes ces entraves, le peuple n'a pas de vrais conseillers moraux. Il n'a plus que Dieu et le tsar. Il y a chez nous beaucoup d'hommes intelligents, mais ils ne comprennent pas le peuple russe. Et pourquoi notre société n'a-t-elle plus d'énergie? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur le peuple, et que le peuple n'est pas avec elle moralement. Vous, les aristocrates, vous vous êtes civilisés en 2 siècles, mais vous vous êtes éloignés du peuple. Vous affirmerez en vain que c'est vous qui vous êtes occupé de lui, qui le défendez dans vos écrits. Certes, vous faites tout cela, mais le peuple est persuadé que ce n'est pas de lui que vous vous inquiétez, mais bien de quelque autre population imaginaire qui ne lui ressemble pas. Il croit aussi que vous le méprisez, et vous ne vous apercevez pas vous-même du mépris que vous avez pour lui, tant ce sentiment, reste des temps d'esclavage, est instinctif chez vous. Et ce mépris a commencé dès que le peuple, asservi par vous, a été entravé dans ses efforts vers la civilisation. Il nous est devenu presque impossible de nous rallier au peuple. Et ici, je répète mes paroles d'autrefois. Le peuple russe est avant tout orthodoxe, vit de l'idée orthodoxe, même quand il ne la comprend pas, ou plutôt ne sait pas expliquer sa croyance. Toutes ses autres idées lui viennent de là, même les mauvaises, les criminelles. Il veut que tout s'y rapporte. J'ai déjà fait rire de moi quand j'ai soutenu cette thèse. Nos Russes éclairés n'admettent pas tant de force de princier chez le peuple, qu'ils nous montrent vautrés dans le péché, dans la boue. Mais ne sont-ils pas coupables de son abaissement, eux qui l'ont opprimé? Ils nous étalent des superstitions, insistent sur son peu de zèle extérieur religieux, et s'imaginent même parfois que le peuple est athée. Toute leur erreur provient de ce qu'ils ne savent comprendre l'idée que le peuple se fait de l'Église. Je ne parle pas du clergé ou des rites, mais bien des rêves vaguement socialistes que le paysan mêle à ses conceptions religieuses. Le mot « socialiste » semble inconciliable avec les principes de l'Église, mais je ne m'en sers que pour mieux me faire comprendre, si étrange que cela puisse paraître. J'entends par là les espoirs de fraternité d'union universelle humaine en l'amour du Christ, espoir auquel le peuple ne veut pas renoncer. Si l'union rêvée n'existe pas encore, si l'Église nouvelle n'est pas encore fondée, une Église qui ne se contentera pas de prières, mais commandera l'action, vit déjà dans le cœur de nos paysans russes. Le socialisme du peuple russe ne réside ni dans les théories communistes, ni dans des formules en quelque sorte mécaniques, mais bien dans l'union universelle de tous les hommes au nom du Christ. Le voilà, le socialisme russe, et nos européanisés en rient. Il y a donc dans le peuple beaucoup d'autres idées que l'aristocratie n'admettra jamais et considérera comme absolument tartare. Je n'en parlerai pas ici, bien qu'elle soit plus sérieuse que l'on se l'imagine. Mais j'en reviens à l'orthodoxie. Qui ne comprend pas la foi et le but du peuple ne comprendra jamais ce peuple. Je puis dire, ne l'aimera jamais. Comme le peuple ne veut devenir tel que le voudraient voir nos sages, il y a plus d'une chose à craindre dans l'avenir. Jamais le peuple n'accueillera un Russe européanisé comme l'un des siens. « Aime ce que je regarde comme saint, dira-t-il. Vénère ce que je vénère, et alors tu seras un frère, bien que tu t'habilles autrement que moi, bien que tu sois un monsieur, et que tu ne saches pas toujours trop bien t'exprimer en russe. » Car notre paysan a aussi quelques idées larges. Non, le peuple russe n'est pas une masse inerte ou une machine à payer des impôts, comme vous tentez de le démontrer. Je veux dire simplement que les obstacles qui nous séparent de lui sont grands, que le peuple vit très uni, à part de nous. Si l'on accepte son tsar, auquel il a voué une foi inébranlable, il ne recherche l'appui de personne. Pourtant, de quelle force ne disposerions-nous pas si les classes intelligentes s'alliaient avec le peuple? Il ne s'agit que d'alliances morales. Ah, messieurs des finances, vos budgets ne ressembleraient plus alors à ceux d'aujourd'hui. Des rivières de lait couleraient dans l'Empire, et tout ce que vous souhaitez vainement s'accomplirait bien vite. Oui, mais comment faire? Est-ce vraiment notre civilisation européenne qui nous en empêche? Notre civilisation? Je ne sais. À vrai dire, nous n'en avons pas qui nous soit propre, jusqu'à présent. Si nous en avions une véritable, une à nous, il n'y aurait aucune division entre nous et le peuple, car le peuple aurait adopté cette civilisation. Mais nous nous sommes comme envolés de chez nous, et avons perdu tout contact avec la population demeurée purement russe. Comment, partis si loin, pourrions-nous la guérir? Comment faire pour que l'esprit du peuple reprenne sa tranquillité? Les capitaux vont où il y a tranquillité morale. S'il n'y a pas de tranquillité morale, les capitaux se cachent ou deviennent improductifs. Comment faire pour que notre peuple sache bien que la vérité n'est jamais bannie de la terre russe? Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Pour dire tout, il faudrait trop de volumes. L'univers ne les contiendrait pas. Mais si le peuple voit la vérité de notre côté, il viendra sûrement à nous, et ce sera un énorme pas de fait. Je le répète encore une fois. Tout le malheur vient de ce que les classes supérieures et cultivées se sont brusquement séparées du peuple russe. Comment réconcilier les nuées et l'océan afin que le calme renaisse ?